Jusqu'à 20h sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir avec Thierry Dagiral et la suite du programme, Thierry, avec vous.
Eh bien, ce sont les nouveaux rendez-vous de ce 18-20 d'été. Après le journal, nous tirons un coup de chapeau à ceux qui s'engagent à des initiatives solidaires. 19h20, le monde d'après. On réfléchit ensemble à ce monde d'après Covid. Les relations internationales demain avec Pascal Boniface, le patron de l'Iris. 19h30, tube d'été. Angèle Châtelier va nous replonger dans ces tubes que l'on va fredonner toute la soirée. Enfin, 19h40 jusqu'à 20h, on part en balade. 12 France, balade dans nos régions. Nous serons ce soir entre le Tarn et le Lot, en Occitanie. Europe 1, tout l'été, avec plaisir bien sûr à vos côtés.
Votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Thierry Dagiral. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Le rapport alarmant des sénateurs sur le séparatisme religieux. Il faut agir vite, écrivent les parlementaires, sinon des quartiers entiers vont sortir de la République. Les détails à suivre dans quelques secondes.
Les syndicats à Matignon à peine sortis, la CGT appelle déjà à la grève pour le 17 septembre.
Dans ce journal aussi, honneurs militaires et décorations, l'hommage à Mélanie Lemay, cette gendarme fauchée lors d'un contrôle routier.
Melbourne, en Australie, 5 millions d'habitants se reconfinent.
Et puis, levez les yeux, une comète s'invite dans notre ciel, mais ça se mérite, vous allez voir, faut se lever tôt.
La météo?
La météo, la tendance météo, Anissa.
Avec cette perturbation postée sur le nord-ouest depuis plusieurs jours, qui va traverser le pays demain, ce qui nous apporte donc des pluies. Pas très conséquente, mais attention, des orages tout de même sur les Rhône-Alpes. Sur le Rhône-Alpes, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Merci.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Thierry Dagiral et Sébastien Krebs.
C'est un rapport particulièrement alarmant. On y parle de l'école, des associations sportives et des prédicateurs religieux. Comment mieux détecter les discours et comportements déviants? Des sénateurs rendent public une quarantaine de propositions. Salomé Legrand. Et leur constat est rude, il faut agir vite.
Et oui, parce qu'en interrogeant près de 70 chercheurs, militants associatifs, responsables institutionnels et politiques, les sénateurs font ce constat qu'au-delà de la radicalisation violente, celle des terroristes, il se développe dans certains quartiers une radicalisation islamiste politique qui tente de prendre, disent-ils, le contrôle de l'islam en France. Sans pouvoir quantifier précisément le phénomène, ces sénateurs s'alarment d'une minorité de musulmans adoptant, je cite, un comportement dont l'intransigeance prend prétexte la religion, mais qui s'inscrit surtout en contradiction avec les valeurs de la République et particulièrement la liberté de conscience et l'égalité homme-femme. Un séparatisme dangereux donc, contre lequel le rapport préconise 44 mesures, le rétablissement de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, des interdictions de territoire à l'encontre des idéologues des frères musulmans, le renforcement des moyens humains affectés au renseignement territorial le plus en pointe pour suivre ces mouvances, la surveillance renforcée des élèves scolarisés à domicile ou dans les écoles hors contrat, ou encore une meilleure formation des élus locaux à toutes ces problématiques avec la désignation de correspondants laïcité au sein des préfectures.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Deux policiers seront jugés en correctionnel pour des violences contre un manifestant. C'était en décembre dernier à Lyon. L'homme avait été roué de coups et matraqué pendant plusieurs minutes. Il avait perdu 9 dents et eu la mâchoire fracturée en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites.
Les retraites qui étaient au menu aujourd'hui des premières réunions de concertation à Matignon entre le Premier ministre Jean Castex et les partenaires sociaux, Sébastien.
Oui, les syndicats ont défilé depuis ce matin. Tous plaident en disant que l'urgence n'est pas à rouvrir ce dossier des retraites, mais plutôt à parler d'emploi. Olivier Samin, vous êtes à Matignon et déjà le ton se durcit puisqu'à peine sorti de son rendez-vous, la CGT appelle à la grève.
Philippe Martinez n'en a rien dit devant les journalistes à la sortie de son entretien avec le Premier ministre, mais c'est un communiqué envoyé un peu plus tard depuis le siège de la CGT à Montreuil qui donne le ton. Le syndicat veut marquer la rentrée avec une nouvelle journée de grève et de manifestation le 17 septembre prochain. Voilà le gouvernement prévenu. L'emploi, les bas salaires, c'est là-dessus que la CGT veut mettre l'accent, mais aussi le refus d'une remise sur la table du dossier des retraites. Sujet explosif. Prévient Philippe Martinez.
On en a parlé pendant 2 ans et demi. Et au bout de 2 ans et demi, il y a eu une des plus grandes grèves qu'il y a eu en France depuis un certain nombre de décennies. Donc c'était un sujet explosif, que c'était un sujet qui allait diviser le pays. S'il démarrait son mandat par ce genre de situation, ça laissait mal augurer de la suite.
Et d'ailleurs, sur la question des retraites, tous les visiteurs du jour se retrouvent, y compris la CFDT et le patronat, qui ne veulent pas que ce sujet vienne polluer la question de la relance. La priorité, a dit Laurent Berger ce matin, c'est l'emploi.
Olivier Samain en direct de Matignon a noté que la ministre du Travail, Elisabeth Borne, sera l'invitée de la matinale d'Europe 1 demain à 8h15 avec Pierre Devineau.
Elle s'appelait Mélanie Lemay, elle avait 25 ans. Les honneurs militaires ont été rendus ce matin à cette jeune gendarme fauchée le week-end dernier. C'était lors d'un contrôle routier dans le Lot-et-Garonne. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a décorée à titre posthume et rend hommage à l'ensemble de la gendarmerie.
Gendarmes, vous comptez dans vos rangs des blessés nombreux, des morts trop souvent. La nation connaît votre sacrifice. Vous avez choisi un métier utile, indispensable au pays, indispensable à la population. Dans ces terribles circonstances qui nous rassemblent aujourd'hui, la République veut vous dire que votre engagement n'est pas vain et qu'il ne le sera jamais. Au contraire, vous êtes l'honneur de la République. Vous êtes, vous, les forces de l'ordre, ceux qui nous protégeaient.
La cérémonie à Mérignac, près de Bordeaux, en présence des proches et des collègues de cette gendarme, comme le chef Guillaume, qui travaillait avec elle depuis 4 ans à la gendarmerie d'Aiguillon.
Attaché comme on peut déjà normalement être attaché à n'importe quel camarade, ce qu'on appelle la fraternité d'armes et l'esprit de corps. Sauf que Mélanie dépassait clairement ce stade-là. On était au-delà d'une simple fraternité d'armes. Elle était une amie, elle était une sœur pour beaucoup d'entre nous. Je parle de ces camarades d'Aiguillon qui ont travaillé au quotidien avec elle, une personnalité marquante. Mélanie exerçait son métier comme elle pratiquait le judo, la même abnégation, le même dynamisme, le même mordant, le même sang-froid. Et elle avait un sens de l'injustice, je vous garantis qu'au quotidien, son caractère bien trempé, l'injustice, n'avait qu'à bien se tenir parce que c'est une perte pour sa famille, pour qui j'ai une pensée toute particulière, mais pour ses camarades, pour nous, pour la gendarmerie, mais c'est surtout et aussi une perte pour toutes les victimes à qui elle a rendu des services énormes.
Un témoignage recueilli par Stéphane Place pour Europe 1.
Europe 1. Votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Thierry Dagiray.
Nous allons en Australie dans la suite de votre journal de 19h. Melbourne reconfine 5 millions d'habitants.
Et puis spectacle unique dans notre ciel, une comète est visible toutes les nuits.
Europe 1.
Sur Europe 1, votre grand journal du soir, la suite avec Sébastien Krebs et Thierry Dagiral.
Et ils seront à l'honneur le 14 juillet. 1400 soignants et représentants de la société civile seront invités dans les gradins.
Et tous issus des professions en première ligne pendant l'épidémie. Caissiers, enseignants, forces de l'ordre seront en tribune pour cette cérémonie prévue place de la Concorde mardi prochain. Mais attention, le virus n'est toujours pas derrière nous. C'est le rappel à l'ordre du Conseil scientifique qui juge une deuxième vague quasiment inévitable si les gestes barrières ne sont plus respectés.
Le virus qui continue de se propager dans le monde, 550 000 morts recensés au total. En Australie, 5 millions d'habitants sont sommés de rester chez eux. À Melbourne, un reconfinement difficile à accepter. Écoutez Alex, il vit en Australie depuis 10 ans maintenant.
Il y a eu beaucoup de panique, il y a eu beaucoup de personnes qui ont essayé de fuir Melbourne au plus vite possible, où les gens ont essayé d'aller soit à la campagne, soit dans un autre état qui était moins confiné. Tu te sens un peu isolé du restant du pays. Quand je regarde par exemple sur Facebook et je vois les gens qui commencent à ressortir, ça m'affecte encore plus. Nous, on se retrouve à pouvoir rien faire alors que les autres profitent vraiment de leur liberté. On sait un peu, évidemment, comment ça se passe, le confinement, donc on sait à quoi s'attendre, à quel point c'est monotone, à quel point tu finis par tourner un peu en rond. La première fois du confinement, on se disait, bon, c'est pas super, mais au moins on fait ça, et après on peut retrouver un peu de liberté. Mais là, on n'a aucun repère pour le retour à la norme. Tout le monde vit ça plus difficilement que la première fois. Ça nous montre vraiment à quel point, pour nous, c'est pas fini. C'est ça qui démoralise un peu les gens.
Témoignage recueilli en Australie par Sarah Calamand pour Europe 1. Un gros revers pour Donald Trump. Aujourd'hui, la Cour suprême estime qu'un procureur new-yorkais est bien en droit de demander à consulter ses déclarations d'impôts. Le président ne jouit pas d'une immunité absolue, estiment les juges.
Allez, on lève les yeux vers le ciel à présent pour un spectacle rare. Sébastien.
Alors on sait que l'été les étoiles sont particulièrement visibles, mais là c'est une comète qu'il est possible d'observer quasiment tout le mois de juillet. Son nom est un peu barbare, on va s'épargner ce nom compliqué, mais les spécialistes en tout cas vantent sa beauté, Pierre Herbulot. Beauté qu'il faut mériter, il faut se lever tôt. Hein.
Oui, 4h30 du matin, de quoi doucher tous vos rêves de conquête spatiale. Mais je vous rassure, à partir de la semaine prochaine, le 14 juillet précisément, elle sera visible beaucoup plus tôt ou plus tard, c'est selon, entre minuit et 1h. Alors à quoi ça ressemble une comète? À une grosse étoile rouge-orangée avec une longue traîne de fumée derrière. Et celle-ci est particulièrement belle. L'astrophysicien Nicolas Biver peut l'affirmer. Ça fait 4 jours qu'il se lève à l'aube pour l'admirer.
Les comètes, il en passe, je dirais, tous les mois, mais la plupart sont toutes petites ou loin du soleil ou n'émettent pas beaucoup de gaz et de poussière. Et celle-ci, elle est passée très près du Soleil. Probablement que le noyau est relativement gros et elle émet une très grande quantité de gaz et de poussière. C'est ça qui la rend très brillante. Donc des comètes aussi brillantes que ça, on en voit tous les 5 ou 10 ans. Quoi. Une comète vraiment plus belle que celle-là, sinon il faut remonter probablement la grande comète Albop en 1997, donc il y a plus de 20 ans. Quoi.
Le mieux pour l'observer en ce moment, le matin, c'est un horizon dégagé nord-est. La semaine prochaine, de nuit, un horizon dégagé nord-ouest avec une paire de jumelles de préférence et hors des villes si possible pour éviter la pollution lumineuse. Si vous ratez votre chance, vous pourrez toujours tenter le coup à son prochain passage dans 6 ou 7 000 ans.
Mais, ah oui, mais on va attendre un peu. Alors, merci Pierre Bulot. Et on verra avec Anissa dans un instant où le ciel sera suffisamment clair pour l'avoir, quand même, parce que c'est important. Deux informations de football. D'abord, la Ligue des Champions, le fameux Final 8 de la Ligue des Champions au mois d'août à Lisbonne se tiendra bien à huis clos. C'est confirmé ce soir par les autorités portugaises. Pardon. Et puis en France, l'OM va-t-il changer demain? Selon le Parisien, les discussions ont officiellement commencé entre l'actionnaire du club, l'américain Franck McCourt, et la banque française Wingate, qui est mandatée par l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi. C'est la première étape d'un processus qui va être probablement très long. Pas de confirmation ce soir du côté de Mourad Boudjelal, qui a été joint par Europe 1. Marseille qui débutera sa Ligue 1 face à Saint-Etienne le 22 août. PSG-OM, le choc PSG-OM dès la troisième journée, le 13 septembre.
C'était le journal de Sébastien Kretz qui revient à 19h30 pour le rappel des titres. Anissa, une perturbation traverse le pays demain.
Oui, effectivement, et ça va durer toute la journée. C'est cette perturbation que nous avons sur la Normandie, les Hauts-de-France et la Bretagne depuis quelques jours. Elle était stationnée sur le nord-ouest, et bien demain, elle va traverser toute la France. Alors c'est quand même une perturbation relativement peu active, mais qui va nous emmener sur les Ardennes, les Hauts-de-France, la Normandie, le Cotentin, la Bretagne et les Pays de la Loire. Un front froid, nuageux, avec quelques petites gouttes. En fait, cette perturbation n'est pas très active en termes de pluie. On ne va pas avoir des pluies très soutenues demain. Au sud de la Loire, il fait toujours beau et doux demain matin. Et puis dans l'après-midi, cette perturbation, elle va s'avancer dans le pays pour toucher la région Rhône-Alpes, où là, des orages vont éclater parce qu'il a fait très lourd ces derniers jours. Et entre les montagnes, entre le Massif central et les Alpes, on risque d'avoir quelques coups de tonnerre par endroits assez fort avec une forte activité électrique, mais ça ne devrait pas durer très longtemps. À l'arrière de cette perturbation, en fin de journée, eh bien sur le quart nord-ouest du pays, c'est le retour du soleil pour un très beau week-end qui s'annonce, je vous rassure. Elle passe rapidement, la perturbation. Les températures, donc 13 à 23 degrés demain matin, au meilleur de la journée. Il fait toujours frais au nord, 18 à Dunkerque, 19 à Rouen, 20 à Charleville-Mézières, 22 à La Rochelle, 24 à Bourges, Paris et Pau, 25 degrés à Nantes, 27 à Rodez et Épinal. Il fait toujours chaud sur la moitié sud, avec 28 degrés demain à Clermont-Ferrand. Il va faire lourd à Montpellier avec 29, 30 à Strasbourg, 33 à Saint-Rémy-de-Provence et 35 à Nîmes.
Merci Anissa.
La suite de votre grand journal du soir avec la bonne idée.
Voilà, on a bonsoir Nesma. Est-ce que vous êtes là?
Bonsoir.
Ah, vous voilà. On s'entend. Vous êtes coordinatrice des opérations Paris en compagnie. Vous venez aider nos seniors, ceux qui vivent seuls à Paris, qui sont en perte d'autonomie. Comment vous faites? Sous quelle forme? Comment ça se passe?
Alors, Paris en compagnie propose aux personnes âgées isolées d'être accompagnées dans leurs déplacements de proximité. Mmh. Donc, il peut s'agir de petites sorties de loisirs, d'accompagnement à leurs rendez-vous médicaux ou encore à leurs rendez-vous administratifs.
Oui.
Et pendant le confinement, nous avons mis en place des appels de convivialité afin que nos bénévoles puissent passer des petits coups de fil à nos aînés isolés, prendre de leurs nouvelles et s'assurer qu'ils n'avaient besoin de rien.
Comment ça se passe? Est-ce que les seniors doivent s'inscrire eux-mêmes, leur famille? Comment on peut procéder?
Alors, les deux sont possibles. Les aînés peuvent nous contacter directement à notre numéro, ou leurs proches peuvent également nous contacter afin d'inscrire leurs parents s'ils le souhaitent.
Mmh. Nesma Atam, il y a un dispositif particulier, j'imagine, cet été?
Alors, nous continuons à faire des appels de convivialité, notamment en prévision des journées de forte chaleur pour les aînés qui ne pourraient pas se déplacer. On maintient le lien social grâce à ces petits coups de fil qui sont passés chaque jour à nos aînés.
Mmh. C'est une application, donc, on peut la retrouver. Paris en compagnie, c'est bien cela?
Tout à fait. Vous pouvez télécharger l'application et avoir accès à toutes les demandes des personnes âgées.
Et il y a un numéro de téléphone aussi. Notez-le, 01 85 74 75 76, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça.
01 85 74 75 76. Merci et bravo à vous, Nesma Atem. Merci.
Merci à vous.
Europe 1.
À suivre, Thierry Dagiral.
Eh bien, on va imaginer ce monde qui change comme tous les soirs, les relations internationales après cette pandémie mondiale. On va en parler avec Pascal Boniface, le directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, dans un instant sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Thierry Dagiral. Et tous les soirs de l'été, on va prendre le temps de réfléchir à l'après. Vous recevez tous les soirs des philosophes, des patrons, des économistes, des artistes pour tirer les leçons de cette crise sanitaire. Ce soir, Pascal Boniface est votre invité. Il est le directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Bonsoir Pascal Boniface.
Bonsoir Thierry.
Vous signez ce livre, hein, Géopolitique du Covid-19, ce que nous révèle la crise du coronavirus aux éditions Erol. 5 millions de personnes à nouveau confinées, on l'a dit dans le journal à Melbourne. La pandémie est là encore et le monde reste finalement au point mort.
Pas au point mort, puisque les frontières de l'Union européenne se sont ouvertes. On peut de nouveau circuler déjà au niveau national, ce qui n'était pas le cas auparavant, au niveau européen. Mais on voit qu'il y a effectivement Australie, surtout Brésil, États-Unis, où le virus continue à se répandre de façon dramatique. Et puis, mais il semble être contenu pour l'instant dans les autres pays. Mais il y a encore les points de fixation. Et puis, on n'est pas à l'abri, on le voit bien, d'un cluster, puisqu'on l'a vu récemment en Mayenne chez nous.
Bien sûr. Un premier Conseil européen en présentiel la semaine prochaine, un G7 incertain à la rentrée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la diplomatie française est au ralenti en ce moment ?
La diplomatie, dans son ensemble, est au ralenti. Puisque, bien sûr, on peut faire des visioconférences. C'est mieux que rien. Mmh. Mais on sait bien que dans ce type de conférence, les contacts informels, les pauses café sont aussi importants, voire plus que ce qui peut se dire en conférence officielle. Et puis surtout, c'est qu'au-delà de cela, c'est que la crise du Covid-19 a montré la crise du multilatéralisme. Ouais. Avec le retrait américain de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, on peut certainement reprocher les choses à l'OMS, mais s'en retirer comme ils l'ont fait est quand même une continuation de la politique de Trump qui veut démolir les institutions internationales. Et c'est un peu le paradoxe, il reproche à l'OMS d'être trop proche de la Chine, mais en partant, il ouvre très grandes les portes des institutions à la Chine qui va s'y engouffrer. Et donc, il y a vraiment une crise du multilatéralisme qui existait avant cette crise du Covid-19, qui a été accentuée par la crise.
Vous consacrez un large chapitre à l'Europe dans votre livre, cette Europe hésitante qui a mis du temps pour se coordonner dans cette crise sanitaire. Au début, ça n'a pas fonctionné. Il a fallu en effet beaucoup de temps.
Au début, c'était catastrophique. C'était pas l'Europe, c'était 27 pays différents qui faisaient cavalier seul. Ouais. Et puis, il y a eu un sursaut. Et d'ailleurs, j'ai changé mon chapitre en cours de rédaction parce qu'il y a un sursaut au mois de mai. Et finalement, on peut se demander s'il n'y a pas eu pour l'Europe un moment Covid-19, avec un réveil européen, avec le plan franco-allemand, avec le plan de la Commission, l'intervention de la Banque Centrale Européenne. Et sans ça, les pays d'Europe du Sud souffriraient. Et en fait, les sentiments anti-européens qui avaient beaucoup grandi, notamment en Italie, étaient aussi dus à un sentiment d'abandon de ce pays par rapport aux instances européennes qui apparaissaient toujours pour vouloir punir, sanctionner et jamais pouvoir tendre la main, aider. Et là, c'est l'inverse. Et puis surtout, il y a eu ce moment collectif. Est-ce que l'Europe puissance va naître de la crise du Covid-19 ? Est-ce que l'autonomie stratégique européenne va se mettre en place grâce à la crise du Covid-19 ? Il est certainement trop tôt pour le dire, mais en tous les cas, des espoirs sont là. Et Mme von der Leyen, qui parle depuis un an d'une commission géopolitique, là, a montré qu'elle donnait des actes pour aller accompagner les mots.
Et avec un grand gagnant, bien sûr, l'Allemagne.
L'Europe, l'Allemagne a cédé finalement. L'Allemagne qui ne voulait pas aider, l'Allemagne qui s'accrochait à pas plus de 3% de déficit, l'Allemagne qui s'accrochait à pas de dette commune, que des dettes nationales. Mmh. On n'a pas fait des Corona Bonds, mais c'est quand même un peu pareil. Et donc l'Allemagne a compris en fait que son intérêt était que l'Italie ne soit pas en faillite. A compris que si toute l'Europe du Sud, qui sont ses clients, les excédents commerciaux de l'Allemagne, ils sont surtout avec les pays européens. Et donc si l'Europe allait éclater, Jacques Delors avait dit que si on continue ainsi, c'était la mort de l'Union européenne. Et donc l'Allemagne a senti quand même l'avertissement et elle a pris les décisions que l'on attendait d'elle. On a toujours le débat, est-ce que c'est une Europe allemande ou une Allemagne européenne ? Là, l'Allemagne a été européenne.
Ouais. Vous évoquez bien sûr longuement les États-Unis, chronique d'un menteur multirécidiviste, dites-vous, de Donald Trump. La question, la gestion du président américain a été surréaliste.
Ah oui, là c'est vraiment, on se demande, enfin il a tout ce qu'il ne fallait pas faire, il l'a fait, et puis il ment en permanence. Aux États-Unis, normalement, le mensonge est sanctionné, c'est pas un pays avec lequel on rigole beaucoup avec le mensonge. Mmh. Et là, Donald Trump ment comme un arracheur de dents, sans pour l'instant, sa cote quand même commence à s'effriter, dû à la situation économique.
Y compris dans son électorat.
Et puis quand même, et puis aussi, il y a les conservateurs, notamment son ancien secrétaire à la Défense, l'actuel chef d'état-major des armées, qui disent, attention, cet homme divise le pays. Il a voulu instrumentaliser l'armée au profit de son agenda politique. Et ça, les militaires n'aiment pas beaucoup. Et donc, on voit que même dans son camp, il est critiqué comme diviseur de la nation et comme quelqu'un qui n'est pas assez responsable. Mais attention, cet homme a des ressources. C'est un formidable homme politique en termes de campagne électorale. Il peut très bien rebondir. Il serait trop tôt pour dire qu'il est déjà battu.
Et derrière cette pandémie, se joue encore une bataille féroce entre les États-Unis et la Chine.
C'est le grand défi stratégique des 15-20 prochaines années. La Chine rattrape les États-Unis et la crise du Covid-19 a fait apparaître ce rattrapage qui existait déjà. Mais il a fait apparaître ce rattrapage au grand jour pour tout le monde. La Chine, c'est déjà 65% du PIB américain. Lorsqu'elle adhère à l'OMC en 2001, c'est 10%. Donc ça va à une vitesse fantastique. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si la Chine va rattraper les États-Unis, c'est de savoir quand est-ce qu'elle va les dépasser.
Vraiment ? C'est-à-dire que ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une propagande de la part de Pékin ?
Non, alors Pékin fait de la propagande là-dessus. Deng Xiaoping disait il faut cacher sa force et attendre son heure. Xi Jinping dit nous sommes déjà le pays qui réussit le plus. Nous avons un modèle à proposer aux autres nations, etc. Et d'ores et déjà, quand vous passez de 10% à 65% du PIB américain, vous savez, pendant la guerre froide, au maximum, l'URSS a représenté 40% du PIB américain. Donc là, et on voit que dans le grand combat sur l'intelligence artificielle, la Chine est en train de grignoter l'avance américaine et peut-être a déjà dépassé les Américains dans ce qui sera le grand combat du futur.
Dernier point, vous démontrez au début de votre livre qu'en 2008, en France, on évoque déjà des risques sanitaires, qu'on enterre un rapport de la CIA en 2009. Ces mises en garde ont été complètement, littéralement, totalement ignorées.
Oui. Alors, on peut se demander à quoi sert la prospective si on n'en tient pas compte. Les scénarios étaient peut-être trop extrêmes. On s'est dit, bon, voilà, oui, ce serait une catastrophe, mais ça n'arrivera pas. Et donc, on est à l'abri de cela. Rappelez-vous quand même cette pénurie de masques qui a quand même coûté assez cher. Et puis, il y a aussi un peu une sorte de complexe de supériorité des Occidentaux. On pensait que les pandémies, c'est pour l'Afrique, c'est pour l'Asie, mais pas nous, parce qu'on a un système de santé performant, qu'on est à l'abri de tout cela, et puis on a vu qu'on n'est pas à l'abri. Rappelez-vous, en janvier, lorsque la Chine dit il y a 50 millions de personnes qui sont confinées, on ne s'est pas dit qu'il y avait un problème sanitaire, on s'est dit qu'il y a un problème de dictature. Mais l'alerte, elle était sanitaire quand même.
Géopolitique du Covid-19, ce que nous révèle la crise du coronavirus aux éditions Erol. Merci beaucoup Pascal Boniface.
Merci à vous.
Europe 1. À suivre Thierry Dagiral.
Bien, restez avec nous, 19h30, tube d'été, retour sur ces morceaux qui nous ont marqués avec Angèle Châtelier. Et puis à 19h40, 12 France, on part en balade. On vous donne plein d'idées si vous vous apprêtez à partir. Ce soir, on prend la direction du Tarn et du Lot. Ne bougez pas, vous êtes sur Europe 1, on revient tout de suite.
19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Avec le rappel des titres de Sébastien Krebs.
La rentrée sociale est lancée, ce sera la première épreuve de force. La CGT, à peine sortie de son rendez-vous à Matignon, appelle à la grève pour le 17 septembre. Toujours rien de concret pour l'emploi et les salaires, dénonce le syndicat. Un rapport alarmant sur la radicalisation. Il faut agir vite, écrivent des sénateurs qui remettent une quarantaine de propositions pour mieux identifier les discours et comportements déviants. Ils pointent par exemple les écoles hors contrat ou encore des associations sportive. À retenir aussi ce soir, l'Académie des Césars du cinéma décrète la parité dans toutes ses instances après la crise Polanski. Nouveau statut et un duo homme-femme à la présidence. L'actualité du foot est la Ligue des Champions qui se terminera sans supporters à Lisbonne au mois d'août pour cause de résurgence du virus. L'UEFA va organiser les matchs à huis clos, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Et puis est-ce un pas de plus vers une possible vente de l'OM ? Le projet de reprise de l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi est prêt. Il va être présenté dans les jours qui viennent à l'actuel propriétaire Franck McCourt. Information du service des sports d'Europe 1. Jusqu'à présent, l'OM a toujours fermé la porte.
Merci beaucoup Sébastien, à demain.
À demain.
Alice, à la météo des plages, vous m'aviez promis la Corse.
Je vous donne la Corse, il n'y a pas de problème, on y va. Très beau temps demain sur l'île de Beauté. Du côté de Bastia, l'eau est à 24 degrés, 28 degrés sur la plage. Un indice UV très fort demain et une mer belle. Pensez surtout à vous protéger à Bonifacio dans le sud de la Corse. 28 degrés sur la plage, une eau à 24, mais un peu plus de vent dans le sud. Un vent qui va souffler en rafale jusqu'à 55 km/h. Dans le nord, nous allons à Berck. Berck Plage, avec quelques rares averses tout au long de la journée. Dans l'après-midi, nous aurons 19 degrés sur la plage et une eau à 18, c'est toujours frais. Et dans le Cotentin, pour la Manche, nous allons sur la très jolie plage de Barfleur avec des éclaircies. Demain, sur l'eau et sur la plage, il fera exactement la même température. 17 degrés dans l'eau, 17 degrés sur la plage.
Facile de rentrer dans l'eau comme ça.
Effectivement, il n'y a pas d'écart.
Merci Anissa.
Votre grand journal du soir se poursuit avec vous Thierry Dagira, les places à la culture maintenant avec ce soir autour de la table Diane Chénouda, Angèle Châtelier et Nicolas Caro.
Bonsoir à vous trois.
Bonsoir Thierry.
Alors c'est la grille d'été depuis lundi sur Europe 1. Avant de partir en région dans quelques minutes, place à la culture, cette culture qui doit se réinventer cet été. Mais d'abord comme tous les soirs, la séquence rétro avec votre tube d'été Angèle Châtelier.
Et on retourne en 1967. Exactement, qui veut dire touche-touche en Kosa, une langue d'Afrique australe qui a été le tube de l'été 67 et pourtant elle était considérée comme sans intérêt pour son auteur Myriam Makeba qui, bien des années avant ce succès, était déjà un symbole de la lutte anti-apartheid. Première femme noire à recevoir un Grammy Award, Myriam Makeba chante Pata Pata en 67, mais cette chanson, elle l'a écrite en 1956. La vingtaine, elle survit alors de petits boulots, puis elle intègre un groupe, les Manhattan Brothers, et elle profite de cette exposition pour lever la voix et dénoncer l'apartheid mis en place en 1948 dans son pays, l'Afrique du Sud. Mmh. Et alors, à cause de ses engagements, Myriam Makeba est interdite de séjour dans son propre pays pendant plus de 30 ans.
Et ce tube, Angèle, ça parle de tout ça à la fois ?
Pas vraiment. Pata Pata, il n'évoque aucune lutte politique, aucun engagement. La chanson ne parle que de danse. Pata Pata est le nom de la danse que nous faisons ici à Johannesburg, chante-t-elle. Et les gens commencent à bouger dès que Pata Pata commence à jouer. Mais alors Myriam Makeba a marqué l'histoire par sa lutte et ses chansons engagées. En 1965, Malcolm X est assassiné, grande voix des droits de l'homme afro-américain. Myriam Makeba lui rend hommage dans une chanson. Everybody seems to be preaching revolution. Makeba chante la tolérance, la paix, l'égalité, rend hommage à Patrice Lumumba, figure de l'indépendance du Congo belge, lui aussi assassiné. Myriam Makeba aura connu un succès planétaire avec Pata Pata, mais restera surtout une femme de conviction qui aura marqué l'histoire de l'Afrique.
Les tubes et leur histoire avec Angèle Châtelier, c'est tous les soirs juste après 19h30. Ce tube qui a été repris, Nicolas Caro, par qui ?
Par une Française.
Ah bon ?
Sylvie Vartan.
Ah. Quatre bouts de bois qui tapent, qui tapent.
D'accord.
Voilà, je suis content d'apprendre quelque chose à Nicolas Caro. Nicolas, on prend un
mais
livre.
Mais elle restait un peu discrète cette chanson-là.
Mais non, pas du tout, c'est très connu. Non. Okay. Nicolas, ce soir, vous vous attaquez au roman d'un monstre sacré de la littérature américaine.
Et même mondial, La Sentence chez la Tess, c'est le dernier John Grisham sorti en février. C'est un grand Grisham en plus, l'histoire de Pete Banning, le propriétaire d'une plantation de coton du Mississippi, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui se lève un matin d'octobre 1946, prend son petit déjeuner, puis son Colt 45, se rend dans la ville d'à côté et tue sans raison son ami, le pasteur Dexter Bell. Ensuite, il fait appeler le shérif et il se rend sans difficulté. Quand on lui demande pourquoi il a fait ça, il répond qu'il n'a rien à dire. Et quand son avocat lui demande ce qu'il veut plaider, il répond non coupable.
Mais Nicolas, pourquoi il a fait ça ?
Vous lirez pour savoir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je l'ai terminé, il était 3h du matin et je n'avais pas vu l'heure passer.
Donc c'est un bon Grisham.
Oui, alors moi j'adore Grisham, mais surtout quand il fait du pur thriller judiciaire comme ça, un peu comme La Firme, vous savez, adapté au cinéma avec Tom Cruise par Sidney Pollack, ou L'Affaire Pélican avec Julia Roberts. Grisham a le don d'écrire des livres palpitants sur des sujets parfois très ardus, judiciaires. Grisham était avocat, il écrivait pour son plaisir, il était dans le sud des États-Unis, il avait du mal à s'en sortir financièrement. Avant La Firme, il avait déjà publié A Time to Kill, le droit de tuer, mais ça... c'était pas très bien vendu. Mmh. C'est le cinéma, en fait, qui lui a fait vendre des livres. C'est lui qui nous explique.
What happened with the firm was,
ce qui s'est passé avec la firme, c'est que lorsque j'étais avocat dans une petite ville, je me battais pour gagner ma vie, pour m'en sortir, pour survivre. Et puis j'ai reçu un appel. Ils m'ont appelé de New York. Ils m'ont dit, on vient de vendre les droits du livre pour le cinéma. Mais il n'y avait pas encore à cette époque de contrat d'édition. Ils n'ont pas vendu les droits pour un livre. Donc je bossais à mon bureau en attendant un miracle. Et puis le miracle, c'est que quelqu'un a lu mon manuscrit, l'a envoyé à Hollywood, et on a donc vendu les droits pour un film pour plus d'argent que j'en avais jamais gagné dans toute ma vie. Et le contrat de film est arrivé le premier. Une fois qu'on a eu ce contrat, tout à coup, tous les éditeurs voulaient publier mon bouquin.
C'est fou, ça. Ça veut dire que sans l'adaptation, on ne connaîtrait peut-être pas aujourd'hui Hicham.
Et non, et ce serait dommage. Il écrit un livre par an. La plupart, 9 sur 10, allez, sont des chefs-d'œuvre du genre.
Et le dernier donc s'appelle La Sentence chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup, Nicolas. Diane Chenouda, à présent. On part à la Villette, Diane, à Paris. Hein, la Villette qui a imaginé, là encore, un festival cet été.
Eh ben oui, Thierry, ça s'appelle Plaine d'artistes. Ça a commencé d'ailleurs début juillet et ça se déroule tout le mois de juillet. Donc partout, à la Villette, dans le parc, mais aussi à la Grande Halle, dans les Folies, vous savez, ces petites cabanes rouges hein, partout dans le parc, et puis également au Théâtre Paris-Villette, à la Philharmonie. Bref, partout, on peut découvrir le travail des artistes en répétition, qu'ils soient danseurs, acrobates, chorégraphes, pour leur prochaine création. Vous voyez, on écoute tout de suite les précisions de Didier Fusier, le directeur de la Villette.
Par tabasse avec ses chevaux, à l'entraînement, peut-être aussi des scènes qui seront du coup rejouées deux ou trois fois, c'est-à-dire vraiment comme si vous étiez en coulisses ou alors encore mieux dans une salle de théâtre au moment où le metteur en scène cale un peu son spectacle. Donc il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, vous entrez au milieu, vous restez 5 minutes, vous restez 1 heure. Ce sera une forme artistique qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on est spectateur, puisque un spectateur souvent voit un spectacle fini. Là, il va avoir l'envers du décor, et c'est passionnant.
Ouais, c'est vraiment intéressant comme démarche. Beaucoup de hip-hop, de danse hein, aussi. Angelin Preljocage, le grand chorégraphe. Mourad Merzouki, qu'on aime beaucoup aussi pour le hip-hop. Il y aura également la formidable compagnie de cirque XY.
Edgane, il y a aussi de la magie. Le public peut participer, c'est ça hein ?
Oui, de la magie, avec là aussi un côté envers du décor, car le public peut en effet lui-même pratiquer des tours de magie. C'est vraiment une grande déambulation à la Villette, avec des artistes du centre Pompidou également, des plasticiens qui montent leurs œuvres sous nos yeux, devant nous. Il y a de la musique aussi dans les jardins avec l'IRCAM. Et puis également l'artiste plasticien Christian Boltanski avec ses installations dans les arbres. Et puis le festival de cinéma en plein air qui aura bien lieu cette année, hein, comme chaque année, du 23 juillet jusqu'à fin août. C'est entièrement gratuit et voilà, il faut venir évidemment avec un masque.
Bien sûr, ouais.
Voilà, les jauges seront un peu réduites hein, de 10, 15, parfois 50, même 100 personnes. Voilà, Plaine d'artistes, c'est à la Villette. C'est tous les après-midi, du jeudi au dimanche, tout le mois de juillet, donc jusqu'au 2 août.
Merci beaucoup, Diane Chenouda. Merci à vous trois.
Europe 1. Dans un instant, Thierry Dagiral.
Un nouveau rendez-vous de ce 18-20-12 France avec Anissa. On vous emmène en vadrouille ce soir. On va prendre l'air entre le Tarn et le Lot. Embarquement immédiat dans 2 minutes sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir en balade tous les jours jusqu'à 20h, c'est le programme L'été, ça s'appelle Douce France, avec plein d'idées sorties, des visites, mais aussi des découvertes de produits régionaux. On se régale et ce soir, Thierry Dagiral avec vous, on part dans le Tarn et le Lot.
Et on commence dans le Tarn, entre Toulouse et Béziers, on n'est pas loin de Castres, en région Occitanie. Donc bonsoir Benjamin Péter.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Alors Benjamin, notre correspondant sur place, on part en randonnée avec vous Benjamin, au pied de la Montagne Noire.
Oui, un grand bol d'air dans un endroit que j'adore, à quelques minutes à peine de Castres, vous le disiez, dans un massif qu'on appelle le Cidobre. C'est 5000 hectares de forêt et surtout de rochers. C'est ce qui fait l'originalité de ce site, parce que le Cidobre, c'est un massif granitique et partout, vous allez croiser des masses monumentales, des boules de granit entassées les unes sur les autres. et sur lesquels on reconnaît parfois un poisson, le chapeau de Napoléon, la forme d'un oiseau. L'un des rochers emblématiques sur le sentier qu'on appelle le sentier des merveilles, ici, s'appelle d'ailleurs le roc de l'Oie. Mais le symbole de cet endroit, c'est la Peiro Clavado, un rocher de 780 tonnes qui tient en équilibre sur un petit socle naturel d'un mètre carré. On peut se glisser en dessous, c'est très ludique, c'est très étonnant, fascinant même. Et c'est là que j'ai croisé Thérèse et son mari qui s'offraient une petite excursion.
C'est magnifique parce que personne ne l'a fait. Il n'y a pas la main de l'homme et c'est mystérieux. D'ailleurs, on se demande comment ça a résisté, cette pierre-là clavée, c'est-à-dire clouée en fait. Peiro Clavado, c'est pierre clouée. Et puis les autres aussi, ce roc de l'Oie, elle attend qu'à être gavée, c'est toi. Seulement, on ne la gavera jamais, tant mieux. C'est un endroit, moi, c'est un endroit qui me plaît.
Benjamin, on imagine que ces blocs monumentaux ont fait l'objet de légendes au fil des siècles.
Hein. Oui, tout ça a nourri l'imaginaire, un éléphant qui se serait changé en pierre, la main du diable qui aurait façonné une rivière de rochers. Au sommet de la Peiro Clavado, vous allez trouver par exemple plein de petits cailloux parce qu'on raconte que toute pierre jetée là-haut, et surtout qui y reste, garantit aux lanceurs un mariage dans l'année, des histoires qui se racontent et qui font rêver les enfants quand vous vous promenez avec eux.
Alors, on va être nombreux bien sûr à rester en France cet été, d'où bien sûr Cohue. L'avantage, là, Benjamin, c'est que le site est immense.
Ben oui, parce que des rochers, vous allez en trouver un peu partout sur différents chemins de randonnée. Mmh. Et pourtant, je peux vous assurer que le site attire beaucoup de monde. Il faut dire qu'on est, comme je vous le disais, donc juste à côté de Castres, pas très loin d'Albi, à 70 km à peine de Toulouse à vol d'oiseau. En 1h30, vous y êtes. Du coup, dès le premier week-end du déconfinement, Florence Artero de la Maison du Cidobre a constaté une fréquentation digne du milieu de l'été. Mais effectivement, vu l'étendue du site, bien, il y a très peu de risques de se croiser.
Comme le site est quand même grand, et les rochers sont disséminés sur tout ce territoire. Donc on va pouvoir se balader d'un côté et de l'autre, sans vraiment se rencontrer tous au même endroit. On coche toutes les cases, il n'y a pas la cohue de la mer. On est en moyenne montagne, donc on a la fraîcheur qui est agréable l'été. Et ça grimpe pas, en plus c'est facile d'accès, et on peut faire tout ça en famille.
Voilà, alors vous pouvez aller les voir directement à la Maison du Cidobre, mais ce que je vous conseille, c'est d'aller sur leur site. Vous pouvez télécharger toutes les randonnées directement sur votre téléphone pour savoir un peu où aller. Et puis le Cidobre, c'est aussi un massif qui est en partie exploité pour son granit. C'est d'ailleurs le plus grand producteur de granit de France, il faut le savoir, avec de nombreuses carrières en activité, des ateliers de transformation dont beaucoup se visitent. C'est l'autre option hein, pour les jours où il ne fait pas beau, mais compte tenu du temps qu'on a en ce moment, la balade en forêt ombragée, ça me paraît la bonne sortie.
Merci beaucoup Benjamin Péter, notre correspondant Europe 1 en Occitanie, bien sûr. Anissa, on va prendre la voiture, on quitte le Tarn et on remonte vers le Lot. Il y a les 200 km, mais ça vaut le coup avec les enfants. On va à 15 km de Rocamadour. On va s'arrêter à Padirac à présent, le gouffre de Padirac qui a rouvert fin juin. Bonsoir Laetitia de Ménibus Gravier.
Bonsoir Thierry.
Vous êtes la présidente du gouffre de Padirac, premier gouffre en France, l'un des plus fascinants à explorer en Europe. Hein.
Oui, le plus visité en France, à la fois un gouffre, une rivière souterraine, une grotte, tout ça en même temps.
Alors je suis venu moi quand j'étais gamin, c'est assez fascinant. Racontez-nous, on descend dans ce gouffre, c'est assez effrayant.
Alors, on descend dans ce gouffre dont là aussi une légende dit que le diable se serait enfui. Donc il y a beaucoup de légendes de diable associées au rocher visiblement. Mmh. Et donc on descend au fond de ce gouffre par le biais d'un ascenseur ou par les escaliers et on s'enfonce dans 75 mètres dans les profondeurs de la terre. Et Édouard Alfred Martel, le découvreur, disait au fond du puits, on se croirait au fond d'un télescope avec pour horizon un morceau de ciel bleu. C'est vraiment ça, on voit... un rond circulaire qui est comme ça, ouvert sur la terre avec, quand on est tout en bas, ce ciel bleu qui s'ouvre.
Il faut le dire, il faut prévoir une laine quand on descend parce qu'il fait très froid.
Il fait 13 degrés, température constante.
Et là, il y a une balade, on monte sur un bateau, il y a une balade.
Alors ensuite, on descend, il y a une rivière qui, dont la voûte s'élève, qui on fait une balade en barque avec des bateliers qui vous racontent une belle histoire, l'histoire de ce lieu, gouffre de Padirac. Et puis ensuite, on arrive sur une sorte de lac souterrain, un lac souterrain, avec une gigantesque pendeloque qui semble s'admirer à la surface de ce lac. C'est un émerveillement d'arriver dans cette salle, qui est une des salles emblématiques du gouffre de Padirac. Ouais. Cette pendeloque, elle fait 15 mètres de hauteur, elle est épaisse de 4 mètres, elle est effilée en pointe jusqu'au niveau de l'eau. et laisse sans voix parce que vraiment c'est une belle
salle. Amenez vraiment vos enfants parce que ça vaut le détour. Merci à vous Laetitia de Ménibus Gravier, vous êtes la présidente du gouffre de Padirac. Les tarifs, Anissa ?
Eh bien c'est 17 euros par adulte, pour les enfants de 4 à 12 ans c'est 12,50 euros, c'est gratuit pour les moins de 4 ans et la visite dure 1h30.
Alors, on dort où ce soir ? Une bonne idée avec vous Philippe Viguier des places du Figaro Magazine. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Thierry, mon Lot, hein, puisque c'est le département où j'habite, donc pour la peine je vais vous donner deux adresses dans l'environnement de Rocamadour. La première c'est le top du top, le château de la Traîne, un relais château, peut-être un des plus beaux de France, à la verticale de la rivière Dordogne. La vue est prodigieuse. Alors, je vais vous donner les tarifs de cet hôtel où on démarre à partir de 450 euros et on peut monter jusqu'à plus de 1000 euros.
Ah, oui.
Donc, c'est quand même assez cher.
Ouais.
Du coup, je vous donne une seconde adresse plus abordable, une auberge dans un tout petit village, un village de poupées qui s'appelle Sarrazac. L'auberge s'appelle La Bonne Famille, 4 générations, une dizaine de chambres, une piscine, un tennis. Et là, on est à partir de 70 euros à La Bonne Famille.
Merci beaucoup Philippe, à demain bien sûr. On reste entre Tarn et Lot ce soir avec dans un instant des saveurs et Marion Sauveur.
Douce France dans votre grand journal du soir avec Thierry Dagiral. Nous sommes dans le Lot en Occitanie. Et on passe à table, le temps de déguster une spécialité du terroir français.
Voilà, et on rend tout l'été sur Europe 1 hommage à nos producteurs régionaux, à nos restaurateurs, c'est important. Bonsoir Marion Sauveur.
Bonsoir.
Vous nous faites découvrir un produit du terroir français. Ce soir, c'est une plante herbacée.
Et oui, c'est l'ail rose de Lautrec, un ail sec aux gousses roses qui ne pousse que dans le Tarn.
Europe1.fr, je montre cette gousse d'ail.
Voilà, il porte deux labels, l'indication géographique protégée et le label rouge. Et les producteurs viennent juste de ramasser les têtes et ils les font actuellement sécher. Ouais. Et fin juillet, vous trouverez donc cet ail rose de Lautrec un petit peu partout sur les étals.
Parfait. Alors, vous nous amenez auprès des cultivateurs de cette ail ?
Et oui, je vous emmène chez celui qui a réalisé cette manouille que vous avez à côté de vous et cultivé cette ail rose. Voilà, une manouille, c'est
la
ça.
La gousse, c'est
elle,
l'ensemble.
Elle n'est pas tressée, en fait, donc c'est un petit peu particulier. C'est une manouille.
D'accord.
Et donc, on repart du Lot et on va dans le Tarn, direction Lautrec. On a un petit peu de route. Alors, je vous propose de faire un petit arrêt à l'atelier du glacier à Rocamadour. Moi, je suis gourmande. Alors, on s'arrête. On va manger une petite glace. Une glace de Rocamadour, justement. Ce fromage.
Une glace
au fromage pour les plus aventureux. Avant de reprendre la route, départementale 820, avec un petit arrêt dans la capitale du Lot, Cahors. Et là, on s'arrête pour déjeuner au restaurant Le Marché. Un petit menu, entrée, plat, dessert à 23 euros, avec notamment, par exemple, cette semaine, un duo d'agneau, tomate farcie paysanne et un jus de viande au thym en plat. Et puis, on repart, on reprend la route jusqu'à Caussade, départementale 960. Et on bifurque à Groyer sur la départementale 83 jusqu'à Lautrec, l'un des plus beaux villages de France, chez Gaëlle Bardou.
Gaëlle Bardou qui est avec nous ce soir sur Europe 1. Bonsoir Gaëlle Bardou.
Oui, bonsoir à tous.
Vous êtes producteur d'ail rose de Lautrec, 4e génération de producteurs, c'est ça ?
C'est ça, c'est bien ça.
C'est un ail qui est arrivé à Lautrec au Moyen-Âge.
Oui, au Moyen-Âge. La légende dit effectivement qu'un marchand ambulant se sera arrêté pour faire ripaille dans une auberge.
Mmh.
Et qu'au moment de régler son repas, il n'avait pas d'argent sur lui. Il avait proposé à l'aubergiste de l'époque, donc en guise de paiement, quelques têtes d'ail. L'aubergiste, intrigué par ce mets inconnu, du coup, l'a testé et a été... ébahi, réjoui de voir le résultat que ça pouvait donner dans les plats.
Mmh.
Il a eu l'idée de le replanter dans son jardin et l'année d'après de proposer aux paysans des alentours de le replanter en plein champ jusqu'à aujourd'hui et l'ampleur que ça a maintenant. Quoi.
Et à l'origine, l'ail vient d'Asie centrale, hein, vient pas donc de France. Et à Lautrec, la culture est restée longtemps très locale et elle s'est développée depuis 70 ans.
Pourquoi il est rose ?
Il est rose, c'est principalement dû à la variété. La variété également le terroir.
D'accord. Et il a une autre particularité, il a un goût beaucoup moins fort que l'ail que l'on connaît tous.
Alors par rapport à un ail conventionnel, c'est un ail qui est très doux au palais, qui est subtil, qui est sucré et qui est, on va dire, assez abordable par tous.
On peut le conserver longtemps ?
Oui, on dit qu'on peut le conserver d'une récolte à l'autre dans de bonnes conditions, bien sûr, hein, dans un endroit assez aéré.
Mmh.
et à l'abri de la lumière, c'est bien aussi, mais dans un garage, c'est idéal. Pour ceux qui n'en ont pas, bon, veillez à ne pas, surtout pas le mettre à côté d'une table de cuisson.
D'accord.
Un pack de cuisson, ouais. Parce qu'évidemment, avec les différentes températures d'humidité, c'est là qu'il conservera le moins bien.
Dites-moi, Gaël Bardou, vous aimez le cuisiner comment, cette taille?
Ah, on a plaisir à le cuisiner. Lorsqu'on le fait goûter, bien souvent, au néophyte, c'est en chemise, c'est-à-dire dans l'enveloppe de son caillou, on va le faire confire au milieu d'un pli de Toulouse, par exemple, qui va rendre son jus. Et là, c'est juste délicieux derrière. Un ail confit, c'est délicieux. On peut le consommer également l'été. On réserve un coin de plancha lorsqu'on fait une grillade. Et on peut le couper en pétales, en fines lamelles, qu'on va faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Ça va légèrement se caraméliser.
Ouais.
Pas trop le faire cuire, sinon là, c'est pas agréable. Mais ouais. Légèrement caramélisé, là, il va ressortir tout le sucre de l'ail.
Parfait.
Et là, c'est un régal. Les enfants se déchaînent pour le consommer.
Merci beaucoup, Gaël Bardou. Merci à vous. Hein. Marion.
On reprend la route, direction Albi, à 5 minutes à pied de la cathédrale. En pierre rose, on retrouve Sandrine Caramelli, la chef qui propose une cuisine du terroir inventive avec des produits locaux. Son restaurant, c'est le Lautrec.
Bonsoir Sandrine Caramelli.
Oui, bonsoir Thierry.
L'ail rose de Lautrec, hein, vous l'utilisez-vous à toutes les sauces, c'est bien ça?
C'est ça, voilà, tout à fait, de l'entrée au dessert. Et voilà, donc notamment là, bientôt je vais utiliser l'ail frais, parce que les récoltes sont quasi terminées.
Ouais.
Le temps d'attendre le séchage, et je vais donc le préparer dans des entrées comme le flan, par exemple. Le flan à l'ail.
C'est ça, vous faites un flan d'ail?
Tout à fait.
C'est dingue, racontez-moi.
C'est très simple.
Rapidement, comment
alors,
on fait?
Alors, vous prenez une tête d'ail, tout simplement, vous l'épluchez.
Ah, on voit la photo sur europe1.fr, ouais.
Et donc, vous l'épluchez, puis vous mettez l'ail à blanchir, enfin à bouillir avec de la crème et du lait, tout simplement. Une fois que l'ail est cuit, vous plantez un peu le couteau pour voir, et vous mixez le tout. En attendant, vous battez les œufs et on y verse le mélange, donc lait, crème, ail. Et
vos clients n'ont pas peur quand ils voient ça sur la carte?
L'ail rose de Lautrec, comme l'a dit Gaël, est très doux et très
doux,
sucré. Donc on a un goût subtil, donc pas très fort. On a juste le parfum sucré et de l'ail, donc il n'y a pas de souci. Après, donc, vous l'assaisonnez, vous mettez ça dans des ramequins et vous le passez au four tranquillement au bain-marie à 120 degrés.
Ouais.
Voilà.
Parfait.
Après, vous le sortez et à côté, vous pouvez le servir, si vous voulez, avec une émulsion à l'huile d'olive et au persil. Voilà, c'est une entrée très rapide à faire. Et très
bravo, bravo à vous. Merci beaucoup, Sandrine Caramelli. On déguste votre cuisine au restaurant Le Lautrec à Albi. Bel été à vous. Merci beaucoup, Marion Sauveur.
Merci.
On vous retrouve bien sûr demain, aux côtés de Pierre de Villeneuve à 6h56 et 8h42. Il y aura quoi à menu?
Des framboises, et vous en aurez aussi demain soir.
Tant
ouais,
mieux.
Que Pierre de Villeneuve ne mange pas tout. Hein.
Merci beaucoup, Marion. À demain alors.
Europe 1.
Dans un instant, musique avec Émilie Mazoyer. C'est tout l'été, bien sûr, sur Europe 1 avec des concerts, des lives. Que du bon ce soir, Supertramp live in Paris et le live des Vieilles Canailles.
Moi, j'ai reçu un bras ouvert, Vieilles Canailles. Et il y avait toujours ton couvert, Vieilles Canailles.
Voilà, la voix de Johnny Hallyday, Dutron et Eddie Mitchell. Ce soir, chez Émilie Mazoyer. Merci beaucoup Anissa, à demain.
À demain Thierry.
Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ces deux heures d'infos. Marie-Baptiste Duard, Emmanuel Calma et Valérie Danan. Vincent Thévenet à la réalisation. Dans un instant, toute l'info à 20h. Rendez-vous demain dès 18h sur Europe 1 pour écouter bien sûr Le Monde Changer.
Europe 1, écoutez Le Monde Changer.